Dimanche 17 décembre 1978. Douzième leçon de catéchisme pour adultes par M. l'abbé Montarien en la chapelle polonaise, rue Saint-Honoré à Paris.
Cette fois-ci, je ferai une sorte de chronologie biblique. C'est-à-dire que je vous donnerai des dates et puis quelques petites remarques à propos des événements. Il y a quelques semaines, je vous ai dit qu'Abraham, il fallait le situer autour de l'an 3000. Et j'ai ajouté 3000 environ. Heureusement, j'ai dit environ, parce que en y voyant de plus près, il faut le situer autour de l'an 1800. C'est pas tout à fait la même chose. 3000, c'est les débuts de l'histoire, de l'époque historique. Je savais que c'était aux environs de 2000. Vous savez que je ne suis pas très très fixé sur les chiffres. Alors aux environs de 2000, ça va. Autour de 1800, donc, Abraham. Abraham, c'est un Chaldéen. C'est un Araméen vagabond, comme dit la Sainte Écriture quelque part. Il reçoit l'ordre de Dieu de quitter Ur, où il habitait, et il se met en route. Je vous ai parlé de sa foi, la foi de celui qui part sans savoir où il va, mais qui sait que Dieu sait où il le mène. Entre 1800 et 1600, c'est l'époque des patriarches. Dans ces premières dates, nous sommes très très vagues. Ça va se préciser au fur et à mesure qu'on approche de Jésus-Christ. Les patriarches, les grands patriarches, hein, c'est Abraham, son fils Isaac, Jacob et puis les 12 fils de Jacob, Joseph surtout. C'est en 1600 que les Hébreux vont aller se promener en Égypte. Je vous ai déjà dit que la situation était favorable en Égypte. À ce moment-là, c'était la dynastie des Hyksos, ou des pasteurs. Les Sémites avaient pris le pouvoir. Il leur arrive quelquefois de prendre le pouvoir de cette façon-là. Ils l'avaient fait en Égypte. Toute l'histoire d'Israël est conditionnée par la situation de ces deux grands voisins. À l'est, la Babylonie, ou la Syrie, c'est le même pays, vous savez, c'est les deux vallées du Tigre et de l'Euphrate, ou plutôt l'unique vallée de ces deux fleuves, et puis en Occident, c'est l'Égypte. Quand l'Égypte est puissante, Israël aura tendance à se tourner vers l'Est, et puis quand c'est le pays des fleuves qui est puissant, Israël se tournera vers l'Égypte. Et tout au long de son histoire, Dieu l'encourage à ne s'appuyer que sur lui. C'est sur lui Dieu. S'appuyer sur l'Égypte, s'appuyer sur Assur, s'appuyer sur Babylone, c'est une infidélité. Et cette leçon demeure pour nous dans les périodes difficiles, et nous sommes dans une période difficile, nous sommes invités à nous appuyer sur Dieu et non pas sur tel ou tel. C'est dans la mesure où nous nous appuyerons sur tel ou tel que nous nous effondrerons parce que ces gens-là ne sont jamais solides. Le seul qui soit solide, c'est Dieu. Mais Dieu lui-même prend occasion de la situation des grands voisins. En ce moment, en Égypte, la situation est favorable. Dieu va y mettre son peuple à l'abri. C'est l'histoire de Joseph. Nous sommes en 1600. De 1600 à 1230, c'est-à-dire pendant plus de trois siècles, les Hébreux vont vivre en Égypte. Ils vont s'y développer, tout tranquillement, protégés qu'ils sont par le pouvoir. Et ils avaient besoin de cela. Et puis un beau jour, quand ils n'auront plus besoin de cela, eh bien, Dieu leur enverra d'abord la persécution et ensuite la libération. La persécution à cause de leurs péchés, la libération à cause de ses promesses. Encore une fois, toute cette histoire nous concerne directement. Quand nous avons des ennuis, c'est de toute façon pour notre bien. C'est pour l'expiation de nos péchés et c'est pour notre amendement. Autour de 1230, donc, c'est l'Exode. L'Égypte a changé de dynastie. Ce ne sont plus les Hyksos, ce sont les Ramsès. Les Ramsès, vous le savez, furent des pharaons bâtisseurs. Ils avaient besoin d'esclaves. D'autre part, ils n'éprouvaient aucune sympathie pour les Hébreux, qui étaient des Sémites. La situation, en vérité, avait changé. Il semble que l'Exode soit passé sous le règne du pharaon Ménephta. Si j'ai bonne mémoire, Ménephta, c'est le successeur de Ramsès II, à moins que ce soit son prédécesseur. Mais peu importe pour ce que nous avons à en faire. Pas ? Il semble que ce soit sous Ménephta que l'Exode soit passé. Le pharaon de la Bible serait lui. Ou bien Ramsès II, peut-être, n'est-ce pas ? 1230. De 1230 à 1200, c'est la promenade au désert. Les Hébreux ont reçu la loi au Sinaï, ils ont ensuite désobéi, et Dieu les punit en leur interdisant l'entrée de la terre promise. Alors on nomadise, et on meurt sur place. Ce sont les fils de ceux qui sont sortis d'Égypte qui entreront en Canaan. 1230, 1200 si vous voulez, c'est l'installation en Canaan, et jusqu'en 1225 environ, c'est la période des juges. Alors voyez la situation. Le pays est habité. Il faut prendre la place des habitants. Alors on les extermine. Mais les habitants ne se laissent pas faire, ils se défendent. Alors, il y a des périodes où ça marche, et puis des périodes où ça marche moins. Des périodes où les habitants du pays se défendent, voyez-vous. Ils ont le droit, dans le fond. Mais le droit, surtout, appartient aux Hébreux, parce que ce pays l'est par Dieu. Mais ils ne l'auront que dans l'unique mesure où ils sont fidèles. Or, ils sont encore très très proches de l'idolâtrie. Voilà une tentation que nous ne connaissons plus, tout au moins sous sa forme ancienne. Ce Dieu qu'on ne voit pas, ce Dieu unique, leur paraît extraordinaire. Comment adorer un Dieu qu'on ne voit pas ? Comment penser qu'il n'y a qu'un Dieu ? C'est si agréable de penser qu'il y en a des quantités. Et c'est si merveilleux de pouvoir contempler son Dieu, son idole. Ils sont très tentés par les idoles. Quand ils succombent, Dieu les punit. Et quand ils se repentent, Dieu rend sa grâce. Alors, toute cette période des juges, c'est cela. C'est une succession de péchés, de châtiments. Le châtiment s'appelle ou bien Madian, les Madianites, ou bien les Philistins, ou bien d'autres. Mais surtout cela. Alors, les Philistins font des incursions, les Madianites en font aussi, les Cananéens du pays reprennent du poil de la bête. À ce moment-là, on crie vers Dieu, et Dieu envoie ce qu'on appelle un juge. À cette époque, la Palestine n'est pas un pays, n'est pas une nation unie, si vous voulez. C'était une série de tribus, on avait 12, qui vivaient chacune sa petite histoire, avec en commun le culte de Yahvé, le culte du vrai Dieu. Et quand on parle des juges, ce sont habituellement des héros locaux. Ce n'est pas un homme qui tout à coup s'impose à tout Israël. Ce sont des héros locaux. Les plus connus, vous savez leur nom, c'est par exemple Samson ou Gédéon. Parlons un petit peu de Samson, et puis ensuite de Gédéon. Il ne faut pas, vous n'êtes pas empêché de croire que leur histoire a été un peu grossie dans la manière épique. Ce qui intéresse surtout les auteurs, c'est la leçon religieuse, n'est-ce pas ? On nous dit que Samson était venu de façon un peu miraculeuse, alors que ses parents ne l'attendaient plus. Sa mère était stérile. Il y a dans la Sainte Écriture une série de femmes stériles comme cela, qui, après de longues prières, obtiennent un fils. Ce sont des figures de la Sainte Vierge, jusqu'à la toute dernière, la mère de Jean-Baptiste. La Sainte Vierge, elle, aura un fils de façon beaucoup plus extraordinaire. Donc la mère de Samson eut un fils, et toute contente d'avoir un fils, elle le consacra à Dieu. Elle en fit ce qu'on appelait un nazir. Un nazir, eh bien, on le reconnaissait à sa mise. Il se laissait pousser tous les cheveux et tous les poils. Il était hirsute. Et par ailleurs, il ne buvait jamais de boisson alcoolisée, ce qui est beaucoup plus pénible. Samson était donc un nazire. On nous dit que sa force était dans ses cheveux. Je pense qu'il faut traduire « sa force tenait à ce qu'il était consacré à Dieu ». Aussi longtemps qu'il serait fidèle, Dieu lui serait fidèle. Et dès le moment où il abandonnerait Dieu, Dieu l'abandonnerait. Alors, comment va-t-il abandonner Dieu? Eh bien, c'est une histoire de femme. C'est une histoire de femme païenne. J'en ai touché un mot tout à l'heure à propos de Salomon. Les Israélites étaient invités à n'épouser que des filles de leur race. Non pas parce qu'elles étaient plus solides ou plus jolies, même si elles l'étaient, mais parce qu'il fallait préserver à tout prix le culte du vrai Dieu. Or, les femmes sont ou favorables ou dangereuses dans ces questions religieuses. C'est elles qui élèvent les enfants, et puis elles ont une influence sur les hommes, même si ceux-ci ne l'avouent pas, qui peut aller très loin. Donc, interdiction d'épouser des femmes païennes. Or, Samson épousa une Philistine, c'est-à-dire qu'il alla chercher sa femme chez ses propres ennemis, Dalila. Et les Philistins disaient à Dalila, « Tâche de trouver le secret de la force de ton mari. » Et il l'interrogeait, elle l'interrogeait, mais sans avoir de réponse. Mais un beau jour, elle eut la réponse, parce qu'elle savait y faire. C'était dans un moment de tendresse, alors Samson livra son secret. « Ma force est dans mes cheveux. » Et pendant qu'elle dormait, elle lui coupa ses nattes. Je crois qu'il faut traduire de la façon suivante. « Pour s'être montré infidèle en prenant une femme philistine, eh bien, Samson a perdu la faveur de Dieu. Le nazir, l'homme consacré à Dieu, le barbu, le poilu, voilà ce qu'elle en a fait, cette femme. » Alors prenez la leçon, hein. Méfiez-vous, j'allais dire des femmes, mais je vais me faire agonir, méfiez-vous de certaines femmes. Comme ça, c'est tout tranquille. L'autre, c'est Gédéon. Gédéon, c'est la même chose, sachez de prendre la leçon de ce Gédéon. Gédéon combattait les Madianites. Et il fit sonner de la trompette et réunit, je ne sais plus combien, 3000 volontaires. Et Dieu lui dit, c'est beaucoup trop. Tu vas dire à ces gens que le combat qui s'annonce est terrible. Alors Gédéon fit un beau discours. Il expliqua que le combat serait terrible et que ceux qui ne se sentaient pas la force ou qui avaient des intérêts au foyer étaient encouragés à retourner à la maison. Je crois qu'il en partit 2000. Et avec son millier de volontaires, Gédéon pensait bien battre encore les Madianites. Et Dieu lui dit, c'est beaucoup trop. Tu vas les conduire à la fontaine et tu observeras la façon dont ils boivent. Ceux qui boivent avec élégance, en mettant un genou en terre, tu les prieras de se retirer. Ceux qui lapent comme des chiens, voilà des hommes. Tu les garderas. Et il s'en trouva 300 à laper comme des chiens. Il renvoya les autres. Et à ces 300, il confia à chacun une cruche et une torche. Et il s'approcha au soir du camp des Madianites, qui se trouvait dans une vallée. Il disposa 100 hommes sur la colline, là, sur la droite, 100 hommes sur la colline, là, sur la gauche. Et puis les 100 autres, il les tapit aux abords du camp. La nuit tomba. Chacun avait sa torche allumée à l'intérieur de la cruche. Et tout à coup, Gédéon s'écria, « Pour l'honneur de Yahvé et pour Gédéon !» Chacun brisa sa cruche, brandit la torche, les Madianites s'éveillèrent en sursaut, virent des quantités de torches là, des quantités de torches là-haut, d'autres là-haut, et s'enfuirent. Et ce fut tout le combat. Alors, encore une fois, c'est un arrangement épique, je suppose, n'est-ce pas? Quelle est la leçon? Nous ne tenons rien que de Dieu. Nous ne devons compter que sur Dieu. Il faut céder, bien sûr, pour que le ciel nous aide, mais la victoire, toute victoire ne nous vient que de Dieu. Il se sert d'ailleurs très souvent et même habituellement d'instruments insuffisants. Pensez à Sainte Jeanne d'Arc, par exemple. Elle est donc chercher un chef de guerre là, 17 ans. Le dernier des juges, c'est Samuel. Samuel, c'est le plus grand, c'est le plus connu. C'est lui qui va établir à contre-cœur la royauté. Les Hébreux voulaient un roi, c'est-à-dire qu'ils voulaient ressembler à tous les peuples. Jusqu'alors, ils avaient été le peuple de Dieu. Dieu était leur chef et cela suffisait pour cimenter leur unité, n'est-ce pas? Ils veulent un roi. Dieu choisit d'abord un nommé Saül, qui avait toutes les qualités, sauf l'obéissance. Tous ces récits sont pleins de leçons, vous savez. Saül attendait Samuel, qui devait offrir un sacrifice. Comme Samuel tardait à venir, Saül offrit lui-même le sacrifice, alors que ce n'était pas sa fonction. Et Dieu dit à Samuel, « J'ai rejeté Saül. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. » Mettez-vous ça dans la tête et dans le cœur. C'est l'obéissance qui vous conduira au ciel et la désobéissance qui vous conduira ailleurs. C'est très important. En ce qui concerne la messe, l'obéissance se confond avec le sacrifice. Il faut savoir cela aussi. La Sainte Messe est un mystère d'obéissance. Le Christ s'est fait obéissant jusqu'à la mort. Et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Alors, nous ne dirons pas à propos de la messe, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, mais nous dirons que désobéir à propos de messe, c'est le plus énorme des non-sens. Saül fut donc rejeté. Et Dieu se choisit David, l'aimable David. Samuel fut envoyé par Dieu à Bethléem pour y choisir le successeur de Saül. C'était dans la famille de Jessé. Samuel se présente, demande à Jessé de faire défiler ses fils. Ils étaient tous très beaux, je ne sais plus s'ils étaient 7 ou 8. Très beaux, très forts, bref, bien fait pour régner. Et chaque fois qu'il en passait un, Dieu disait à Samuel, ce n'est pas celui-ci. Et finalement, il n'y eut plus de garçons. Samuel dit à Jessé, sont-ce là tous des garçons? Et l'autre répondit, il y en a bien un autre, un tout petit, un tout jeune, il est au champ, il garde les troupeaux. On fit venir David. Je vous dis tout cela parce que dans l'esprit des Israélites, le Messie qu'ils attendaient, il se le représentait sous les traits physiques et moraux de David. Il était blond avec une belle figure. Samuel sut que c'était lui. Il tira de sa ceinture une corne qui contenait de l'huile et répandit cette huile sur la tête du Christ. Vous rappelez ce que veut dire le mot Christ. C'est très souvent que dans l'Écriture, David est appelé le Christ du Seigneur. Le roi du Seigneur. David, c'est l'homme des psaumes, pas de tous, hein, mais d'un certain nombre de psaumes parmi les plus beaux et les plus prophétiques. C'est aussi l'homme du péché, je le disais tout à l'heure, c'est l'homme surtout de la repentance. Son fils Salomon, c'est 970-931, je n'en parle pas. David, c'était 1010-970, nous sommes déjà plus précis maintenant. Hein. 1010-970, David, 970-931, Salomon. Et à la mort de Salomon, le schisme, nous sommes toujours dans la même doctrine. C'est-à-dire, c'est Dieu qui parle, vous m'êtes fidèle, vous avez ma grâce. Vous m'êtes infidèle, gare au châtiment. Mais ce châtiment n'est pas une vengeance, c'est une correction. Or, Salomon s'était montré particulièrement infidèle. Et aussitôt sa mort, le royaume se divisa en deux. Les 10 tribus du Nord firent schisme. Elles avaient d'ailleurs depuis un certain temps une tendance au schisme, depuis plusieurs siècles. C'est le génie de David, son génie militaire, et c'est aussi le génie de Salomon qui avait réussi à maintenir tout cela dans l'unité. Le fils de Salomon, Roboam, ne sut pas s'y prendre. À peine régnait-il que les 10 tribus du nord faisaient schisme. Au sud, c'était Juda et Benjamin, sur ce territoire qui deviendra plus tard la Judée, et dont les habitants porteront un nom, un jour le nom de Juif. Dans le royaume du nord, les choses vont très mal, je veux dire du point de vue religieux. Dans le royaume du sud, ce n'est pas brillant, mais c'est un peu plus brillant quand même, le royaume de Juda. C'est Juda qui garde Jérusalem, qui garde le temple qu'avait construit Salomon, et qui garde les promesses. Mais Dieu ne prend pas plus parti pour un royaume que pour l'autre. Il envoie des prophètes partout. C'est ainsi, par exemple, que le plus grand des prophètes, qui est le prophète Élie, est un prophète du Nord. Je dis le plus grand des prophètes, et tout à l'heure, au petit sermon, je disais que le plus grand des prophètes était Isaïe. C'est parce que je ne prends pas le même point de vue. Élie n'a rien écrit du tout. C'est un prophète oral et musculaire parce qu'il agissait. Tandis que les prophètes de la Bible, ceux qu'on appelle les 4 grands prophètes et les 12 petits prophètes, sont des prophètes qui ont écrit. D'ailleurs, ils sont grands, non pas forcément parce qu'ils ont été plus brillants, mais parce qu'ils ont écrit davantage, ou plutôt parce que nous avons davantage conservé leurs oracles. Les 4 grands, c'est Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Les 12 petits, c'est Amos, Osée, etc. Et en disant Amos et Osée, j'ai un petit pincement au cœur parce que ces deux-là furent très très grands, mais leurs livres sont plus petits. C'est tout. Le plus grand des prophètes n'est même pas dans les prophètes de la Bible, enfin dans les prophètes, dans les livres prophétiques, il n'a rien écrit. C'est Élie. Mais quand les Hébreux pensaient aux prophètes, c'est à Élie qu'ils pensaient. Je vais faire une digression là, mais vous allez comprendre. Notre Seigneur se transfigura sur une montagne et il vit se présenter à lui Moïse et Élie. Moïse représente la première partie de la Bible, de l'Ancien Testament, qui s'appelle la Loi. Et Élie représente tous les prophètes. Il est le plus grand des prophètes. Une tradition prétendait qu'Élie devait revenir juste avant l'apparition du Messie. Et vous vous rappelez que les apôtres dirent un jour à Jésus, mais est-ce vrai? Faut-il le croire? Et Jésus dit, bien sûr, il faut le croire. Élie doit revenir et même, je vais dire quelque chose, il est déjà revenu. Et les apôtres comprirent qu'il s'agissait de Jean-Baptiste. D'ailleurs, Jean-Baptiste ne se cachait pas de jouer ce rôle, puisqu'il s'était habillé, il s'habillait comme s'habillait le prophète Élie, avec un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins. C'était la manière d'Élie, voyez-vous. Élie, c'est le grand prophète, c'est un prophète du Nord. Il a surtout fonctionné sous le règne d'Ac. J'hésite toujours parce qu'il y a Akab et Akaz. C'est Akab. C'est l'histoire de Jézabel. Akab avait épousé une princesse païenne, Jézabel. Pour vous dire que le royaume du Sud n'était pas exempt, Aden, la fille de Jézabel et d'Akab, Athalie, fut donné en mariage à un roi de Juda. Et tout ce monde-là était aussi coquin que possible. Ma mère Jézabel devant moi s'est montrée, comme au jour de sa mort, pompeusement parée. Ses malheurs n'avaient point abattu sa fierté. Même, elle avait encore cet éclat emprunté dont elle eut soin de peindre et d'orner son visage pour réparer des ans l'irréparable outrage. Hein? Voilà Jézabel. Élie. Élie eut une vie difficile quand on s'attaque à des personnages de ce genre, vous savez, ce n'est pas simple. Le royaume du Nord, qui était plus pêcheur, tomba plus tôt. Nous allons voir ça tout à l'heure. Mais avant de le faire tomber, voyons au passage deux grands prophètes dont les livres sont dans la Sainte Écriture, le prophète Amos et le prophète Osée. Dans le royaume du Sud, je pense surtout au prophète Isaïe, sous le règne d'Akaz, avec un Z cette fois-ci. C'est juste avant la chute.
non seulement sous le règne d'Akaz, mais sous le règne d'Ézéchias et sous le règne du suivant. Il a vécu très très longtemps. En 721, c'est la chute de Samarie. Samarie, c'était la capitale du royaume du Nord. Ce sont les Assyriens qui firent le coup. En 587, c'est-à-dire beaucoup plus tard, chute de Jérusalem. Cette fois-ci, ce n'est plus l'Assyrie, le danger vient du même pays, mais aux Assyriens ont fait place les Babyloniens, Nabucodonosor. Au moment de la chute de Jérusalem, activité des prophètes Jérémie et Ézéchiel. Ces deux prophètes, Jérémie et Ézéchiel, sont à cheval sur les deux régimes, c'est-à-dire le régime de l'indépendance et le régime de la captivité. En effet, le pays fut dépeuplé. On emmena tous ces gens-là en captivité. Ils restèrent captifs à Babylone. On avait laissé sur place quelques personnages sans intérêt, simplement. Entre 587 et 538. En 538, c'est Cyrus. C'est Cyrus qui prend le pouvoir. Babylone disparaît. Le pays ne disparaît pas, toujours. Ce sont des empires qui succèdent, n'est-ce pas? C'est l'empire perse. Cyrus était bienveillant. C'est l'édit de Cyrus en 538 qui permet aux Israélites de retourner à Jérusalem. Activité des prophètes Agée et Zacharie. On s'installe de nouveau avec beaucoup de difficultés matérielles, morales. Cela va durer plusieurs siècles dont on ne sait presque rien. L'Écriture ne nous a presque rien livré de ces deux siècles qui ont suivi le retour. On devine que ce fut confus, difficile, plein d'obstacles, mais au bout de ces deux siècles, eh bien, le pays est reconstitué, mais non pas indépendant, car aux Perses ont fait place les Grecs, plutôt les Perses ont fait place aux Grecs, pour parler français. Les Grecs, c'est d'abord Alexandre le Grand, et puis ensuite les monarchies hellénistiques. Et c'est peut-être sous cette domination grecque que la religion d'Israël va connaître sa plus grande épreuve. Parce que la civilisation grecque était séduisante. Un peu comme la nôtre en ce moment. Matériellement, du point de vue des arts, du point de vue de la culture. Les juifs, appelons-les les juifs à présent, se sentaient un peu crottés au milieu de tout ce monde-là. Ils avaient honte. Et on les vit fréquenter les bains, fréquenter les stades, prendre des noms grecs pour ne pas se démarquer et abandonner le culte du vrai Dieu. Le grand prêtre de l'époque se fit appeler Jason. Et il était un habitué des stades. Il lançait le disque. Les sacrifices du temple le voyaient moins souvent. Et c'est à ce moment-là qu'une bande d'irréductibles va renverser la situation. Ce sont ce qu'on appelle les Maccabées. Les Maccabées. Je me demande pourquoi on dit des morts qu'ils sont des Maccabées. Je me demande si ce n'est pas parce que dans la messe des défunts anniversaire, l'épître est tiré du livre des Maccabées. Lecture du livre des Maccabées. Je pense que ça vient de là. Maccabée, ça veut dire martel, autant qu'on sache. Il y a dans l'histoire de France un Charles Martel qui avait été appelé ainsi parce qu'il frappait très fort. Eh bien, Judas Maccabée, c'est de même. Autour de 165, activité de Judas Maccabée. Les Maccabées, Judas puis ses frères ensuite, vont rendre au peuple de Dieu son indépendance. Pas pour longtemps. Mais ce peuple qui ne connaissait plus l'indépendance depuis des siècles va la recouvrer grâce aux Maccabées. Les Maccabées fondèrent une dynastie qu'on a appelée la dynastie Asmonéenne, mais aucun de souverains ne prit jamais le titre de roi par respect pour les prophéties. Parce qu'ils n'étaient pas de la maison de David et qu'ils savaient que le sceptre ne devait jamais sortir, c'est le texte, de la famille de David. Alors il régnait sans porter le titre de roi. En 63, prise de Jérusalem par Pompée, finit l'indépendance. La dynastie hasmonéenne se maintiendra tant bien que mal sous la domination romaine jusqu'au moment de la venue du Messie. Hérode n'était pas un hasmonéen, mais il avait épousé une hasmonéenne, Mariam, qu'il se hâta d'ailleurs d'empoisonner, malgré tout l'amour qu'il lui portait, un amour qui était grand. En effet, en l'an 40 avant Jésus-Christ, commence à régner Hérode le Grand, qui fut grand sous certains aspects. Ce fut un souverain bâtisseur, il a laissé beaucoup de traces. Mais c'était un demi-fou. Nous sommes arrivés au temps du Christ, Jésus n'est pas encore là, Marie est loin d'être née, nous sommes en 40 avant Jésus-Christ. Voilà un long règne. C'est pour clore son règne.